bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Louis Drillon. À la réalisation Marie Placé, prise de son Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Bessery.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre série consacrée au péril démographique. Cette semaine, nous nous sommes glissés dans la peau de Malthus, histoire d'appréhender les réflexions fondatrices sur la question. Puis nous avons confronté la théorie aux expériences empiriques des diverses régions du monde et examiné les liens entre démographie et développement économique. Aujourd'hui, nous voilà en présence de plusieurs phénomènes. D'un côté, un mouvement de transition démographique qui tarde parfois à se faire et de l'autre, un vieillissement qui met à mal l'organisation économique et sociale d'après-guerre. Des enjeux majeurs auxquels s'ajoute celui de la finitude des ressources face à une population de plus en plus nombreuse. Alors la croissance démographique est-elle une bombe écologique ? C'est ce dont nous allons débattre jusqu'à 14h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de la démographie face à la finitude des ressources en compagnie de Marianne Durano, essayiste et membre de la rédaction de la revue Limite. Face à elle, Denis Garnier, président de l'association Démographie Responsable et auteur du blog du même nom, et Enzo Lesourd, conseiller spécial d'Éric Piolle, maire de Grenoble et auteur de Survivre à l'Anthropocène, publié aux Presses universitaires de France. À 14h50, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Nous avons exilé la beauté. Les Grecs ont pris les armes pour elle. Première différence, mais qui vient de loin. La pensée grecque s'est toujours retranchée sur l'idée de limite. Elle n'a rien poussé à bout, ni le sacré, ni la raison, parce qu'elle n'a rien nié, ni le sacré, ni la raison. Elle a fait la part de tout, équilibrant l'ombre par la lumière. Notre Europe, au contraire lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure. Elle nie la beauté comme elle nie tout ce qu'elle n'exalte pas. Et quoique diversement, elle n'exalte qu'une seule chose, qui est l'empire futur de la raison. Elle recule dans sa folie les limites éternelles, et à l'instant, d'obscures érinies s'abattent sur elle et la déchirent. Némésis veille, déesse de la mesure, non de la vengeance. Tous ceux qui dépassent la limite sont, par elle, impitoyablement châtiés. Les Grecs qui se sont interrogés pendant des siècles sur ce qui est juste ne pourraient rien comprendre à notre idée de justice. L'équité, pour eux, supposait une limite, tandis que tout notre continent se convulse à la recherche d'une justice qu'il veut totale. À l'aurore de la pensée grecque, Héraclite imaginait déjà que la justice pose des bornes à l'univers physique lui-même. Le soleil n'outrepassera pas ses bornes, sinon les Erinies qui gardent la justice sauront le découvrir. Nous qui avons désorbité l'univers et l'esprit, rions de cette menace. Nous allumons dans le ciel ivre les soleils que nous voulons, mais il n'empêche que les bornes existent et que nous le savons.
Cet extrait d'un texte d'Albert Camus, L'exil d'Hélène, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Enzo Lesourd, on rentre dans le sujet par un autre bout de la lorgnette, à savoir celui de la question de la limite, de la justice et de la menace.
Tout à fait, la question de la démographie, il y a deux façons de la prendre, il me semble, et c'est ce que j'essaie de travailler dans l'ouvrage que vous avez mentionné en introduction. C'est d'un côté, soit on considère que c'est une conséquence, que le décalage entre la raréfaction des ressources et la situation démographique, ou bien c'est un symptôme. Et ce que j'essaie de travailler moi dans l'ouvrage là, c'est que ce soit l'envisager comme un symptôme. C'est-à-dire que, non pas le prendre d'un point de vue de la surcharge de la population, d'un excédent de population, mais au contraire de la question de la rareté des ressources. Et la question de la rareté des ressources, elle a une histoire dans la philosophie politique. Elle émerge à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, les ressources deviennent rares. C'est l'angoisse de la modernité, l'angoisse originaire, fondatrice de la modernité, d'avoir tout d'un coup la rareté qui arrive et de promettre par l'accumulation économique, par le système industriel, par le capitalisme, de sortir de cette rareté.
Ça veut dire que la menace, c'est pas simplement la question des ressources, mais c'est aussi la recherche de l'abondance. Ça va de pair.
C'est bien pour ça que la situation est un tout petit peu plus grave qu'une situation, à mon avis, de boom démographique. C'est qu'on est face à une double impasse, celle de la modernité qui nous avait promis que la cité pourrait durer dans la paix grâce à l'accumulation. On voit bien qu'aujourd'hui, le désordre arrive partout, que les catastrophes environnementales se profilent. Et qu'en même temps, ce qui est important maintenant de savoir, c'est comment on propose à nos désirs collectifs un chemin autre que la recherche d'abondance. Les Grecs que vous avez cités avec Camus tout à l'heure, eux, étaient au contraire sur une idée de dire que Le principal, la source de gloire et de vertu n'était pas la recherche d'abondance, d'accumulation ou de profit, mais étaient les belles actions, la gloire, ce qu'Aristote appelle les belles actions, et qu'ils ont passé tout un édifice de mythes et toutes des centaines d'années à bâtir en termes de mythologie sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne recherche de gloire, qu'est-ce qu'une vaine recherche de gloire, avec la grosse différence de fond qu'il y a entre la figure d'Achille et la figure d'Ulysse, qui structure toute la philosophie politique classique.
Alors, dans la question qui est en fait l'entrée dans une certaine forme de société complexe, qui s'est accompagnée d'un certain nombre de changements de mode de vie, la question que vous reposez au final, Enzo Le Sourd, c'est celle de l'Anthropocène. Je vous propose d'écouter Christophe Bonneuil en parler dans La Fabrique de l'Histoire. C'était le 18 octobre 2013.
L'anthropocène, c'est un mot qui est un petit peu barbare. Il a été proposé par des spécialistes des sciences du système Terre, c'est-à-dire des géologues, des climatologues, des écologues. Alors, c'est vraiment anthropos, kainos, le nouvel âge de l'homme, c'est-à-dire qu'il caractérise cette période par l'idée que l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue tellement importante qu'elle rivalise avec certaines des forces géologiques, les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, des phénomènes de tectonique des plaques, etc. Et on a effectivement une influence du changement climatique d'origine humaine, y compris sur le volcanisme, parce que ça fait bouger les masses glaciaires. Du coup, ça a un effet sur l'enveloppe terrestre et ça perturbe les phénomènes volcaniques. Donc l'idée, c'est vraiment une emprise absolue des humains sur l'évolution du système Terre qui le dévie de sa trajectoire géologique. On passe d'un holocène, donc les 11 500 dernières années, qui était relativement stable en termes de température, ce qu'un certain nombre d'archéologues nous disent que cette stabilité qui a permis le développement de nos civilisations. On fait déraper la trajectoire géologique du système Terre vers d'autres états qui sont différents, qui sont incertains, dans lesquels il y aura peut-être des points de basculement. Là, on arrive à des points où les scientifiques eux-mêmes mettent beaucoup de points d'interrogation.
Enzo Le Sourd, on vient finalement sur une sorte de, on revient sur une sorte de charnière entre ce qu'il se passait avant entre l'homme et la nature, à savoir l'homme peut-être catégorie résiduelle parmi l'ensemble de la nature, et le moment où finalement l'homme, ses modes de vie, ses modes de consommation, ses modes de production ont causé une empreinte qui détermine l'avenir du reste.
C'est bien toute la question, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où vous avez un système de développement qui est d'une telle puissance, d'une telle accélération, d'une telle amplification qui en vient à saturer toute l'activité économique à une échelle globale. La question est, c'est d'une part, comment est-on arrivé là? Et la deuxième question, c'est comment on s'en sort? Et là, il y a deux questions possibles, et c'est à peu près les deux grands courants qui jalonnent l'histoire de l'écologie politique. C'est que d'un côté, il y a l'écologie politique qu'André Gortz appelle un peu technicienne, qui va dire qu'il suffit de réajouter une couche d'industrialisation, d'une couche de progrès technique, d'une couche d'innovation, donc de capitalisme, par exemple, ou d'accumulation, pour avoir une empreinte écologique qui serait neutre. Et du coup, à calmer l'empreinte écologique par une nouvelle couche de complexité de la société. Et après, il y a le deuxième chemin que prône André Gortz et que j'essaie de travailler dans mon ouvrage, qui est celui d'une écologie aux côtés de l'art de vie du quotidien, qui est aux côtés de l'individu, de sa liberté, de fait qu'il se sente à l'aise dans son corps, dans sa ville, dans sa vie, et qu'à partir de là, on voit que si on prend comme centre de gravité de l'écologie politique, non pas la biosphère, non pas la planète, non pas un écosystème, mais la liberté et la souveraineté de l'individu, alors à ce moment-là, on peut bâtir une théorie critique sur où en sommes-nous arrivés, pourquoi on en sommes arrivés, pourquoi on en est arrivé là, comment catégoriser ce qui nous arrive là, et comment par effet rebond penser un système politique, un système économique, un système d'anthropologie, un système de mythes, de mythologie, d'une nouvelle mythologie, d'un nouvel imaginaire politique à créer, qui soit au service de l'individu et de son libre développement. C'est aussi une façon de répondre à la question démographique, mais on ne l'apprend pas sous l'angle de la contrainte et de la régulation par l'extérieur.
Alors pour revenir à la question démographique, Denis Garnier, c'est la question des dommages causés par la population humaine. Alors si on imagine que chaque humain a lui-même une empreinte particulière, et si on additionne ces contraintes-là et ces dommages créés, alors on se dit qu'effectivement, la question du nombre a un impact sur la question des dommages environnementaux.
Oui, alors
est-ce que c'est vrai en démographie, ça?
Oui, bien sûr, c'est vrai. Il faut revenir sur la question du nombre. Il faut savoir qu'on était donc, vous avez peut-être déjà parlé dans les précédentes émissions, mais on était 1 milliard en 1800. On est 7,6 aujourd'hui. Les projections donnent 9,8 milliards au milieu du siècle et 11,2 à la fin du siècle. Bon, donc ça nous donne en gros 300 ans entre 1800 et 2100 pour gagner 10 milliards d'individus, alors qu'il avait fallu plusieurs centaines de milliers d'années pour arriver au premier milliard. Bon, il y a encore un exemple qui est encore plus frappant. C'est une personne qui serait née, disons, en 1960, on était 3 milliards, et qui vivra centenaire. Donc ça arrive, hein, ça arrive de plus en plus. C'était d'ailleurs le cas de Claude Lévi-Strauss qui partageait nos idées, qui était centenaire. Eh bien, pendant la vie d'une personne donc née en 1960 et qui tiendra le coup jusqu'à 2060, la population aura gagné 7 milliards d'individus.
Alors pour revenir sur, là vous donc, êtes sur les perspectives démographiques à venir, on va jusqu'à 2050 à peu près.
Voilà, 2050. Eh bien, donc, je vous dis, donc c'est quand même vertigineux que tout se soit passé. En fait, ça s'est passé à notre époque. On est contemporain de l'explosion démographique. Après, ça s'arrêtera. Il faut reconnaître qu'à la fin du siècle, ça devrait plafonner.
Alors, on est contemporain de l'explosion. Après, les perspectives, elles posent un certain nombre de questions, puisqu'il y a ce phénomène qui a eu lieu dans les pays riches, qui a été justement la transition démographique, qui est déjà un peu ancienne. Et de l'autre côté, ce qui est en train de s'opérer à des rythmes très différents dans les pays en développement. Et ça ne pose pas les mêmes questions.
Oui, alors la transition chez nous, donc, elle a eu lieu. Vous avez des régions du monde, le continent américain, enfin la partie sud du continent américain a connu aussi sa transition démographique, alors qu'en fait il n'y avait pas eu vraiment de développement. Enfin, c'est vraiment au même moment que le développement. Et ça, c'est parce qu'il y avait les Américains au-dessus, enfin les États-Unis, donc qui ont mis de l'argent pour le planning familial. Et là maintenant. Ils ne voulaient pas avoir à leur marge une surpopulation. Donc ils ont vraiment aidé. Là, actuellement, donc, vous avez un continent qui est déjà surpeuplé, hein, c'est l'Asie, avec certains, bon, même le plus grand...
Alors, est-ce que ce n'est pas une question de point de vue d'utiliser cette expression, de dire surpeuplé? Si, est-ce que vous êtes d'accord, Marianne Durano, avec cette expression de surpeuplé?
Ben, j'étais en train de me dire, quand on parle d'intervention occidentale pour aider au planning familial dans les pays du Sud, il faut savoir qu'en Amérique latine, en effet, également en Asie et en Inde, s'il y a eu une grosse réduction de la population et si la transition démographique s'est passée plus tôt que prévu, c'est en effet non pas parce que les conditions de développement se sont améliorées, mais parce qu'on a investi massivement dans les années 70-80 dans des campagnes de stérilisation forcée qui étaient tout sauf reluisantes. Donc je rebondis juste sur ce que vous disiez. Malheureusement, il faut faire attention parce que le contrôle démographique n'est pas toujours très philanthrope. Et c'est des pages de notre histoire qui sont un peu noires. Et donc quand on dit que ça s'est très bien passé grâce aux interventions américaines, bon, moi ça me fait un peu tiquer, sachant qu'on parlait d'anthropocène et on parle de l'impact de l'homme sur les changements climatiques.
Alors justement, il faut revenir sur cette question-là. Ça pose des questions, bien sûr, éthiques, ces questions de campagne de stérilisation, bien sûr, mais de contrôle démographique en général. Mais ça pose aussi des questions politiques. Alors qu'est-ce qui permet de faire des liens entre la démographie et son impact sur l'environnement?
Mais justement, quand on parle d'anthropocène, on parle de l'homme avec un grand H, et ça me semble être une catégorie extrêmement abstraite, tout comme la population avec un grand P, ça masque des inégalités et des injustices. Enfin, il faut savoir que les 3 milliards d'habitants les plus pauvres de la planète, qui correspondent donc aux 45% de la population mondiale actuelle, sont responsables de seulement 7% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 7% des plus riches sont responsables, eux, de 50% des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, il faut expliquer pourquoi. Il y a d'un côté les modes de vie occidentaux, très industrialisés, avec des sociétés qui ont des habitudes de consommation et de production qui sont très polluantes et qui ont des effets sur l'environnement. Et de l'autre, on parle de pays en développement qui sont plus nombreux, mais qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes modes de vie.
Mais justement,
donc, il n'y a pas de lien direct.
C'est ça. Et faire peser sur les épaules des mères éthiopiennes la responsabilité du désastre écologique, je trouve que c'est une injustice dans la mesure où nous, pays occidentaux, qui avons déjà fini notre transition démographique et qui sommes en train de vieillir, quand bien même nous ne sommes plus en train d'accroître notre population, mais bien de décroître, nous continuons à augmenter continuellement notre impact écologique et nous sommes de plus en plus responsables des désastres environnementaux.
Denis Garnier, vous froncez les sourcils.
Oui, je fronce les sourcils parce qu'en fait, si vous voulez, nous, notre empreinte, pour prendre le cas de la France, notre empreinte écologique, pour moitié, donc c'est l'empreinte carbone. Bon, si on supprime cette empreinte carbone, c'est d'ailleurs ce qui est prévu, hein, zéro carbone, alors je sais pas, à l'horizon 2050, je sais pas si on y arrivera ou un peu plus tard, il nous reste quand même, bon alors on va parler de la biocapacité, c'est-à-dire ce que notre pays peut produire de façon renouvelable, il nous reste 2,9 hectares par personne. Ben avec ça, on peut très bien vivre. Par contre, vous prenez l'exemple, alors je parlais de l'Asie, donc le groupe Pakistan, Inde, Bangladesh, ils ont une biocapacité de 0,4. Pourquoi? Parce qu'ils ont une très forte densité de population. Au Bangladesh, c'est 1100 habitants au kilomètre carré. En Inde, c'est 400. Et donc, ce sont des pays qui sont déficitaires, hein, sur le plan écologique, il faut quand même le savoir. Et bien, même si ils reviennent avec une empreinte qui est égale à leur biocapacité, il en reste 0,4. Et nous, on a quand même 2,9.
Alors comment ça s'explique ?
Mais ça s'explique tout simplement parce que nous, on est un pays qui est dans une zone tempérée, donc il pleut bien, etc. Il y a tout ce qu'il faut. On a une densité assez faible, même si on trouve d'ailleurs qu'elle est déjà suffisante pour nous, hein, 118 habitants au kilomètre carré. Voilà, tout vient de là, en fait. Et donc, nous, on peut très bien s'en sortir. On s'en sortira. On fait zéro carbone. Moi, je demande pas mieux. Hein.
Donc, c'est la question de l'espace, d'un côté,
et,
qui se pose.
Et la densité. Et donc, la population joue un rôle vraiment fondamental. Faut pas croire. C'est vraiment... Alors, pour revenir à l'histoire du planning familial, le planning familial, c'est pas de la contrainte. Hein. En France, on l'applique, le planning familial. Toutes les femmes appliquent le planning familial.
Ah, mais
c'est
France,
ça qu'on demande.
Sûr,
c'est ça qu'on demande.
Il y a eu quand même des campagnes de limitation qui ont été autoritaires dans certains pays.
C'est vraiment très, très marginal. Très, très marginal. Je parlais de l'Amérique latine. Là. Il y a eu effectivement un exemple au Pérou, avec Fujimori, tout ça. Bon, d'accord.
Un exemple en Chine aussi.
Je parlais de l'Amérique latine. Donc, en Chine, on est contre, effectivement. Non, nous, on est pour le planning familial, l'extension, la gratuité, voilà, que tout le monde puisse avoir ses services, et c'est tout. Mais pour ça, il faut quand même faire de la promotion, il faut faire de la sensibilisation, et c'est ça qu'on demande.
Enzo Le Sourd, de ce qu'on entend, justement, de ces questions de politique, alors, promouvoir la natalité ou au contraire la limiter, on voit qu'en réalité, cette question démographique, elle a été reprise en charge par le politique, d'ailleurs assez rapidement, et notamment pour des raisons économiques.
Ben c'est tout l'enjeu du débat, c'est que d'un côté, on peut tout à fait avoir une intervention sur la dimension démographique, qui soit, faire politiser la question démographique, ça peut être fait dans un sens qui soit fidèle à nos valeurs de démocratie libérale, ou bien de se faire dans un sens qui soit autoritaire. Typiquement, il y a un exemple que Jared Diamond cite dans son ouvrage L'effondrement, sur l'île de Tikopia. L'île de Tikopia, elle est à quelques milliers de kilomètres de l'île de Pâques. L'île de Pâques s'est effondrée. Tikopia a la même population stable, environ 1200 personnes, depuis l'époque où elle a été découverte au XIIIe ou XVe siècle à aujourd'hui, environ 1200 personnes. Et la solution que cette île a trouvée au milieu de l'océan Pacifique, comme l'île de Pâques, à peu près semblable géographiquement, pour durer dans le temps, c'est d'envoyer les personnes âgées surnuméraires dans des pirogues et partir au large, mourir, et de tuer les bébés en bas âge, qui sont surnuméraires, de les tuer aussi. Du coup, là, on voit que la question démographique, elle est prise à bras-le-corps, que ça dure dans le temps, qu'il n'y a pas de problème d'empreinte écologique. Mais pour autant, cette société-là, d'une prise en main et d'un contrôle des naissances ou d'un contrôle de la mortalité, ne correspond absolument pas à nos valeurs de démocratie libérale. Après, c'est évident qu'il y a, si on retourne la problématique de ne pas penser la démographie sous un angle de surpopulation, mais au contraire de projet politique ou comment on arrête d'avoir l'angoisse de la rareté des ressources et on propose un autre chemin à aux valeurs excédentes et à nos désirs que l'accumulation ou que l'industrie, si on fait ce chemin-là, alors à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est comment on définit ensemble, démocratiquement, collectivement, le seuil au-delà duquel on n'a pas envie de se développer. Le seuil au-delà duquel notre développement va devenir, ce que disait votre collègue tout à l'heure en démarrage, une némésis, c'est-à-dire une malédiction. À partir de quand la taille de notre développement revient au stade infra-anthropocène où l'impact des hommes pouvait cohabiter en paix avec les équilibres naturels. Et c'est cette question-là qu'il nous faut nous poser. Et on peut
dans les prévisions démographiques, elle ne paraît pas vraiment possible. Enfin, ce retour en arrière ne paraît pas vraiment possible.
Si on le pense comme un retour en arrière, c'est sûr. Et si on reste en plus dans l'imaginaire de la rareté, qui est un imaginaire moderne et qui nous met dans une impasse aujourd'hui de créativité politique, si on reste dans cet imaginaire-là, en effet, il n'y a pas de solution. Par contre, si on regarde, et c'est ce que j'essaye de faire dans l'ouvrage que vous avez cité en ouverture, comment les antiques tenaient à distance l'accumulation, comment elles tenaient à distance que nous on appelle l'accumulation de la plus-value, comment les sociétés primitives aussi, les premières sociétés, se sont organisées pour tenir à distance tout ce qui était un démarrage et un début d'accumulation, comment l'Église catholique, elle aussi, les premiers chrétiens, étaient organisés contre le démarrage de l'accumulation et toute cette dynamique qui, quelques siècles plus tard, nous amène à l'Anthropocène. Et au moment où nous, on commence à sentir que la promesse de la modernité touche son impasse et arrive à son impasse, au moment où on a un défi de créativité politique à produire ensemble, et il faut, en tout cas, non pas revenir en arrière à ce que faisaient les antiques ou ce que faisaient les sociétés premières, mais réconcilier le meilleur de la promesse moderne, à savoir la liberté individuelle, et l'intelligence des antiques, qui était de tenir à distance l'accumulation pour bâtir, d'un point de vue de débat de société et de collectivité ensemble, un débat démocratique, sur quel est le seuil de développement désirable et au-delà de quel point de développement, le seuil de contre-productivité, on ne veut pas aller.
Marianne Durano, il faut dire qu'il y a un certain nombre de questions politiques qui ont été formulées de manière très différente, puisque pendant très longtemps, la question de la population et de la démographie, elle était liée aussi à la capacité des politiques et organisationnelles à pouvoir la nourrir, cette population. Cette question-là, elle a été dans certaines régions du monde, et là, il faut bien distinguer les régions de ce point de vue-là, elle a été dépassée dans certaines régions, cette question. Et donc, prise en charge politiquement de manière totalement différente. Les enjeux démographiques ne sont pas les mêmes dans une société qui est capable de produire plus qu'elle ne consomme. Alors, en effet, la question de la démographie, c'est pas seulement la question de l'espace, c'est bien la question de la consommation et de la manière dont on peut nourrir les 9 milliards d'habitants qu'on prédit pour 2050. Il se trouve qu'en effet, si les 9 milliards d'individus consomment comme un Américain moyen, mangent autant de viande qu'un Américain moyen et gaspillent autant de nourriture qu'un Américain moyen, ce n'est pas possible. Néanmoins, il faut savoir que, selon l'ONU, actuellement, on produit déjà de quoi fournir suffisamment de nourriture, 3500 calories par habitant, seulement c'est un problème de distribution. C'est-à-dire que la nourriture est mal distribuée, donc j'ai des petits chiffres, hein. Il faut savoir que 15 à 50%, c'est difficile d'estimer, donc la fourchette est large, 15 à 50% des récoltes produites dans le monde finissent comme déchets, c'est-à-dire ne seront jamais consommées. La plupart du maïs produit est transformé en biocarburant. De la même manière, 40% des récoltes de céréales servent à nourrir un bétail qui pourrait très bien manger de l'herbe. Alors ça serait moins productif, mais il pourrait manger de l'herbe.
Et qui lui-même va nourrir des populations qui mangent de la viande, qui sont aussi dans certaines régions du monde.
Et oui, qui évidemment sont dans les régions les plus riches. 60% des individus qui souffrent de la faim dans le monde sont des petits producteurs agricoles. Donc ils meurent de faim sur leur propre terre. Donc le problème pour l'instant, c'est pas tant un problème de production qu'un problème de répartition, sachant qu'ensuite un deuxième problème se pose, c'est-à-dire, ok, pour l'instant on produit peut-être suffisamment de nourriture, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on détruit aussi les écosystèmes à cause de l'agriculture intensive. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'études, notamment il y a une étude de l'INRA qui s'appelle AgriMonde, qui tend à montrer que l'agriculture biologique, et notamment toutes les découvertes en permaculture, pourrait permettre une réelle agriculture intensive, c'est-à-dire qu'il soit vraiment productif sur de petits espaces, sans détruire les écosystèmes. Mais pour ça, il faudrait une volonté politique. Donc actuellement, c'est pas la malnutrition qui est le risque majeur. Enfin, en tout cas, s'il y a une volonté politique, comme vous le disiez, de changer le système de production, je pense que... Enfin, les études montrent qu'on pourrait tout à fait nourrir 9 milliards.
Enzo Le Sourd, la question elle a été posée de manière extrêmement différente dans le temps, puisque lorsqu'il était question de nourrir une population qu'on n'était pas sûr de parvenir à nourrir par les systèmes techniques qui étaient ceux de l'époque d'avant la révolution industrielle notamment, et puis ensuite jusqu'aux guerres, qu'est-ce que justement on peut dire de l'arrivée de la question de la finitude des ressources dans le discours écologique, notamment en France, à partir du milieu du XXe siècle à peu près?
Ben c'est une des ambiguïtés du discours écologiste, c'est que s'il s'inscrit à l'intérieur de la mythologie moderne de la rareté, à ce moment-là, il ne peut qu'aboutir à comment on va limiter notre impact sur l'environnement à coup d'innovation, à coup d'empreinte carbone neutre, et du coup reste dans un système de recomplexification de la société. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'enjeu qui doit se poser maintenant, c'est comment on travaille à une simplification des systèmes de production, à une disruption pour des circuits courts, où c'est les gens qui se réapproprient en direct ce qu'ils font, avec un niveau de complexité et d'intensité qui est moindre par rapport à ce qui se fait là. Il suffit juste de voir quand vous allez dans votre supermarché en bas de chez vous, la moindre tomate, elle a traversé 3 fois la planète. Et donc là, on voit une boucle d'énergie, une boucle de transport qui est beaucoup trop forte et qui pèse sur l'écosystème, tandis qu'il y a, comme vous le disiez, il y a des petits producteurs en Ardèche qui tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits. Donc là, on voit qu'il y a un travail à faire de... La bataille politique, le clivage politique, il est entre quel est le degré de complexité acceptable. Et on le voit avec ce qui se passe un petit peu à Notre-Dame-des-Landes en ce moment, c'est qu'il y a deux niveaux de complexité qui s'affrontent, entre d'un côté une société industrielle étatisée, surmilitarisée, et de l'autre des agriculteurs ou des paysans ou des individus, peu importe, qui revendiquent de pouvoir se réapproprier leurs outils de production pour faire leur métier ou produire machin, pour produire leur... Faire leur métier. Il y a aussi le débat qui est juste derrière, c'est qui est le même débat, c'est comment le vivant est breveté, avec le débat sur les graines. On voit qu'il y a des labels qui sont mis sur telles graines peuvent être utilisées et pas d'autres, et tous les petits paysans, tous les petits producteurs qui, avec leur savoir vernaculaire traditionnel hérité de siècles de travail et d'intelligence, ces gens-là ne peuvent plus utiliser leurs outils parce qu'ils ne sont pas assez complexes. Et donc on voit que le clivage politique, et c'est la bataille de l'écologie politique, entre quel niveau de complexité est acceptable et désirable, et partant de là, il ne s'agit pas de l'imposer de l'extérieur à la société, d'avoir l'état du bien moins complexe qui arriverait et qui serait là et qui imposerait une nouvelle norme, mais de voir quel chemin collectif on a envie de donner à notre désir.
Denis Garnier.
Oui, non, pour nous, à démographie responsable, le problème principal, c'est pas l'alimentation. On peut y arriver, effectivement, on peut se reconvertir. Pour nous, le problème, c'est la biodiversité. Il faut voir quand même qu'on a perdu, c'est le WWF qui nous le dit dans le rapport Planète Vivante, on a perdu la moitié des vertébrés ces 40 dernières années. En début de semaine, il y a eu un appel dans le monde avec pas mal de people sur les grands singes. On a perdu 70% des grands singes depuis 1950. Donc on peut citer comme ça, depuis le début du XXe siècle, 90% des lions, 90% des rhinocéros, 97% des tigres. Donc toute cette mégafaune, c'est vraiment notre présence. C'est parce qu'on colonise les territoires. On peut pas vivre en harmonie avec ces espèces. Il faut leur laisser de la place et on prend toute la place. Donc ça, pour nous, c'est vraiment, dans notre association, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ça, c'est vraiment lié à la surpopulation.
Alors la surpopulation, vous utilisez cette terminologie, mais la surpopulation, déjà, est-ce qu'elle est réellement contrôlable? Est-ce que les politiques ont vraiment déjà eu des influences importantes sur la baisse du taux de fécondité? On a pu voir que l'impact que c'était peut-être pas si important qu'on le croyait, que c'était peut-être un mouvement général de développement, de changement de mode de vie, d'urbanisation, qui peut-être avait fait baisser la natalité plus.
Oui, il y a beaucoup de choses qui jouent. Effectivement, l'urbanisation aide, tant mieux. Le problème, on peut agir. Je parlais de l'Amérique du Sud. Bon, à part les cas extrêmes qu'on a cités tout à l'heure, en général, ça s'est fait de toute façon très, très ouverte, enfin sans contrainte. On peut agir. Et de toute façon, on voit aussi qu'on peut agir en sens inverse. Il n'y a qu'à voir la France, donc avec ses départements d'outre-mer, donc la Guyane et Mayotte. On arrive à avoir, donc la France a le plus fort taux de fécondité en Guyane de toute l'Amérique du Sud. Il n'y a pas d'autre raison que nos allocations familiales.
Ça n'a pas été démontré du tout.
Si, on est à 3,4, c'est le plus fort taux. Et pourquoi? Alors, vous pensez que les Guyanais, nos frères Guyanais, sont, je sais pas, plus prolifiques naturellement?
Mais cette semaine, un certain nombre de chercheurs nous ont expliqué qu'il était très difficile de déterminer les facteurs exacts.
Cette semaine, je sais pas si M. Pison a cité les allocations braguettes, ça se dit, mais ils le disent ouvertement. On vit de ça en Guyane. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a ça d'une certaine façon.
Marianne Durano.
Quand on parle d'allocation braguette, je bondis. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on pourrait avoir un contrôle démographique sans coercition. Incitatif. Mais quand vous êtes une mère de famille, mettons guyanaise, n'importe quoi, indienne, péruvienne, et qu'on vous dit, si vous avez un troisième enfant, on vous sucre vos allocations. Ou vous n'aurez plus accès à telle aide alimentaire. Eh bien, évidemment qu'on se fait stériliser ou on se fait implanter un DU, mais qu'on n'aille pas me dire que c'est pas une coercition. Alors certes, évidemment, c'est peut-être un peu moins direct et un peu moins violent que les stérilisations forcées qui ont eu lieu dans les années 70, peut-être. Mais n'empêche que ça reste une emprise coloniale sur le corps de femmes colonisées, si, bien sûr que si, puisque c'est des investissements qui viennent des pays occidentaux. Donc moi je trouve que c'est... Enfin, en Guyane, c'est la métropole.
La France, hein.
Excusez-moi, mais enfin, aller en Guyane, vous verrez bien qu'il y a une distinction entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Donc, évidemment, on n'imposerait jamais ça en France, de dire aux femmes qu'une condition à l'allocation, c'est de pas avoir d'enfants. Enfin, ça serait inenvisageable. Donc, c'est un mépris des droits de la personne. Et surtout, double problème que je vois, quand c'est coercitif pour moi, ça vise à faire reposer sur les épaules de femmes des pays en voie de développement la responsabilité de nos propres désastres écologiques. Donc, je trouve que c'est injuste. Et quand ça n'est pas coercitif, on peut en effet tout à fait imaginer des politiques de planning familial, respectueuses de la personne, incitatives, non coercitives, tout ce que vous voulez. Ça revient pour moi à instrumentaliser les droits de la femme, en faire des moyens en vue d'une fin qui serait la réduction de la population. Donc pour moi, politiquement, c'est intenable et c'est ce que de nombreuses féministes ont dénoncé dans le consensus du Caire de 1994, où il y avait eu une alliance entre féministes et populationnistes pour dire c'est merveilleux, le planning familial va permettre la décroissance démographique. Et beaucoup de féministes, dont Vandana Shiva, ont dit le problème, c'est que ça consiste à réduire le droit des femmes à leur au droit en matière de procréation, en faisant l'impasse sur leur droit en matière de développement, d'épanouissement personnel, de choix, d'autonomie. Et ça consiste surtout à instrumentaliser leur corps, encore une fois, à des fins qui leur sont extérieures et imposées par des politiques occidentales.
Petit,
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie.
Peut-être qu'il est intéressant de faire un petit rappel sur les questions justement de politique malthusienne, donc avec l'idée d'intervenir. La grande idée du début du XXe siècle, c'est de dire il faut faire quelque chose. Donc on a parlé du contrôle, enfin birth control, on dit régulation des naissances en France. L'idée qu'il fallait faire quelque chose. Alors comme je disais au début, on disait il suffit de mettre à disposition des couples les moyens de limiter les naissances. Et puis finalement, comme ça ne marchait pas, il fallait faire des politiques qui puissent être incitatives pour réguler les naissances. Ce qui est intéressant, c'est que, en considérant l'exemple des pays développés, un modèle avait été mis en place, celui de ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les populations s'autorégulent. Alors ça venait un peu du monde animal, on se dit des populations sur un territoire donné, il y a un moment où il y a des effets d'encombrement, donc les populations ont tendance à se réguler, quand la mortalité baisse, la fécondité baisse également. Cette théorie a été lancée par un Français, Adolphe Landry, mais beaucoup développée aux États-Unis sous le terme « transition démographique ». Et puis ces auteurs, qui ont beaucoup soutenu l'idée de transition démographique, à partir d'un certain moment, ont commencé à mettre en cause cette théorie qu'eux-mêmes avaient contribué à développer, pour dire non, ça marche pas dans le cas des pays en développement, il y a une spécificité des pays en développement, et donc il faut intervenir, donc il faut mettre en place des politiques de population.
Alors cette question justement évoquée par Jacques Véron dans Terre à Terre sur France Culture le 27 mars 2013, Enzo Le Sourd, elle pose la question individuelle et collective, à savoir la liberté de reproduction, d'avoir un projet à une échelle individuelle, et de l'autre, la question collective qui est aussi celle de la question des ressources et de peut-être ce que la société met à disposition des individus et qui devrait être partagé.
Tout à fait. Après la question de la rareté des ressources, elle n'a pas attendu la globalisation de la fin du XXe siècle pour se révéler. Dès l'apparition du société industrielle, on passe d'une société sans pauvres, sans errants, à des cohortes de prolétaires et des gens qui sont aux portes des villes, la formule était sans feu ni lieu, et qui étaient des surnuméraires de l'espèce humaine. Et on bascule un système, en passant dans la modernité, dont Robert Castel caractérisait le monde d'avant comme étant un monde plein, sans rupture de contrat social, avec des solidarités élémentaires qui faisaient que les familles étaient solidaires, qu'il y avait des systèmes de production et d'exploitation agricole et de répartition des ressources qui faisaient en sorte que le nombre de surnuméraires et de populations montreaux était marginal. Il se trouve qu'avec l'arrivée du système industriel, du capitalisme et de l'accumulation, là on s'est retrouvé d'éjecter des systèmes de solidarité, éjecter des systèmes de production, un nombre de plus en plus important de populations. Et donc la question de la surpopulation ou de l'homme en trop, elle est consubstantielle de la modernité. Elle s'oppose là maintenant à une échelle globale, anthropocénique et transcendantale, mais elle était contenue en germe dans le projet politique qui nous occupe aujourd'hui. Et on a bien vu dans le débat qui était tout à l'heure entre les deux autres intervenants à mes côtés, c'est qu'on est dans un débat entre soit liberté individuelle, donc fidélité à nos valeurs politiques, soit rupture de ce contrat-là avec interventionnisme et... le fameux allocation braguette, où en gros on dit aux gens que changez vos comportements, sinon l'État vous punit. Et on voit bien que ce débat-là ne peut pas satisfaisant, qu'il faut avoir un système et une réflexion, et c'est visiblement le défi qui nous attend, c'est comment on trouve une troisième voie entre la capacité de maintenir un système industriel productif pour nous débarrasser de cette contrainte du nécessaire, et en même temps d'être fidèle à nos valeurs qui sont inaliénables. Alors à ce moment-là, on peut changer nos valeurs, mais là aussi, ça mérite qu'on se dise les choses et qu'on en débatte. Si derrière la question démographique, il y a une question qui serait cachée derrière, qui serait celle de la fidélité à nos valeurs, et donc potentiellement un débat de valeurs, mais à ce moment-là, ayons-les derrière.
Éventuellement, un conflit de loyauté entre, d'un côté, une éthique que l'on voudrait conserver par rapport à des principes politiques forts, de liberté, de démocratie, mais aussi peut-être des principes thérapeutique face aux enjeux de développement durable, aux enjeux environnementaux qui aussi, Marianne Duranou, posent des vraies questions éthiques.
Mais oui, mais en fait, c'est quand même terrible de se dire, en gros, soit on continue à consommer et à produire comme nous le faisons, mais par contre, nous devons renoncer à nos valeurs éthiques en réduisant de manière coercitive la population, soit nous sommes fidèles à ces valeurs et on va à la catastrophe. Il y a en effet une troisième voie que les économistes et les écologistes nous proposent depuis des décennies, c'est-à-dire d'arrêter avec ce système de production, de productivisme et de croissance infinie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est aussi la limite à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que finalement, d'une certaine manière...
Ce sont des courants qui ne sont pas encore majoritaires.
Oui, mais
quand
c'est
même
pour ça que chez Limite, on prône la décroissance. Alors c'est sûr que ça ne fait pas plaisir, mais c'est de dire qu'on ne peut pas, en effet, en prolongeant toutes les courbes actuelles, y compris en effet celle de la population, on ne peut pas continuer à imaginer que l'avenir sera soutenable.
Jacques Véron...
Mais, attendez, je finis juste, mais sur la consommation individuelle, même l'individu, l'Américain moyen, il n'est pas responsable individuellement du désastre écologique. Il faut savoir que par exemple, 99% des déchets qui sont produits aux USA, ils sont produits par des entreprises, par les grandes firmes qui rejettent leurs produits toxiques dans la mer et dans les cours d'eau. Les catastrophes environnementales, les paquebots qui coulent en mettant du pétrole dans la mer, c'est pas les individus, c'est un système marchand, un système technico-marchand, un complexe
industriel,
voilà, qui vise le profit maximal, la productivité maximale, et c'est ça qu'il faut d'abord réduire. Enfin, c'est cette production-là, et pas d'abord la population.
Alors, Denis Garnier, ça pose peut-être les questions démographiques d'une autre manière. Si on comprend qu'au final, l'impact environnemental vient beaucoup plus de la manière de produire et de consommer et du système industriel, si on prend ce point de vue-là, que du consommateur lui-même qui individuellement aurait un impact. Qui en réalité est beaucoup moins important que ce que l'on peut dire.
Non, mais quel que soit le système, de toute façon, le nombre joue. Y a pas... Non, simplement pour revenir sur
mais
la...
Dans un cas, il est le facteur de causalité.
Oui, ben ça va jouer plus ou moins.
Et dans l'autre, il...
Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que là, on entend réduction de la population. On ne peut pas réduire la population, enfin, par des méthodes démocratiques. Donc, en fait...
Stabilisation de la démographie.
Mais la stabilisation, si on fait ce qu'on appelle la projection basse de l'ONU, hein, c'est-à-dire vraiment le maximum de ce qu'on puisse faire de façon non coercitive, on arrivera en 2100 au même nombre qu'aujourd'hui. Alors c'est 7,3 hein, la projection au lieu de 7,6. Donc vous voyez, il n'y a pas de baisse immédiate, c'est uniquement un plafonnement de la courbe plus rapide.
C'est dû notamment au prolongement de la durée de vie, de
l'espérance
de vie.
C'est du fait qu'il y a une grande partie de la population africaine, entre autres, qui est très jeune et qui est donc susceptible, effectivement, de faire beaucoup d'enfants. Alors, pour revenir sur cette histoire d'allocation familiale, là, j'ai entendu tout à l'heure, on n'est pour aucune coercition. Nous, on est pour qu'on plafonne les allocations familiales à deux enfants. Et sans effet rétroactif.
Quand vous dites « on », vous parlez...
Démographie responsable.
Démographie responsable,
bien sûr, hein.
Voilà.
Sans effet... Donc, les familles qui ont 4, 5, 6 enfants, ils garderont les mêmes allocations. C'est simplement les nouvelles, disons un an après la promulgation de la loi. C'est un petit peu comme l'histoire des cheminots. Hein. Il n'y a que les enfants, enfin les nouveaux arrivants qui auront ce nouveau statut. Donc, il n'y a aucune coercition, aucune contrainte. Tout le monde est prévenu à l'avance. Voilà. On peut quand même être contre, hein, ça, mais oui, il n'y a pas de coercition.
On n'est pas sûr de la comparaison. Enzo Le Sourd, sur la question justement du contrôle, alors on comprend que finalement, les logiques de néo-malthusianisme, dirons-nous, en réalité, elles sont autant économiques que des politiques de contrôle, de contraception, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moyens politiques d'encourager ou pas la natalité, de défiscaliser ou pas, de créer des niches, de créer justement... C'est en réalité une arme aussi économique, le néo-malthusianisme.
Ben c'est tout le débat qu'on doit avoir. Et moi, j'ai bien écouté votre intervenant de lundi qui disait que Malthus était à la fois pasteur, à la fois économiste, à la fois démographe. C'est-à-dire qu'il avait le point commun entre ces trois disciplines, c'est la rareté. Et c'est quel rapport à la rareté, quel rapport à la plus-value. Avec le système protestant qui va accumuler la rareté pour le réinvestir, avec l'économie qui est donc une discipline moderne, et le démographe qui va chapeauter cette lecture-là en disant qu'il y a un problème non pas de rareté, mais de surpopulation. C'est deux façons de lire les choses. Et après, oui, en effet, le politique, il a deux choix. Soit il travaille la surpopulation, soit il travaille la rareté. Et s'il travaille la rareté, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ça suppose quel système de distribution? Est-ce que c'est la croissance économique qui ne fait que globaliser, radicaliser et déplacer la rareté? Parce que qui dit croissance économique dit les besoins se déplacent, elle ne résout rien. La croissance, elle globalise le manque. En tout cas, ça se déplace et c'est exponentiel. À chaque nouvelle phase de consommation, il y a la production et ça se mord la queue. Enfin, la production appelle la consommation et réciproquement. Et donc, soit on se met dans une logique de, en effet, de débat sur
c'est quoi le comportement qui est responsable par responsable, ou bien auquel cas on essaie de se donner des règles collectives pour voir est-ce que c'est la course folle dans laquelle on est lancé et qui au final ne résoudra jamais, et d'avoir une phase de plus de croissance, une phase de plus d'innovation, une phase de plus de complexité, ne résoudra pas la question de la surpopulation, bien au contraire.
On a vu quand même monter en puissance d'un point de vue politique un certain nombre de réflexions sur la remise en cause de méthodes, de modes de consommation et de production. Je vous propose d'écouter Paul Ariès dans Le Champ des Possibles, c'était sur France Culture le 18 mars 2011.
Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas trop d'humains sur Terre, il y a trop d'hyper-consommateurs, il y a trop d'automobilistes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement nous dit on peut nourrir 10 milliards d'humains. Alors avec un autre type d'agriculture, une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins carnée, moins gourmande en eau. Moi, ce que je crains quand on met l'accent sur la bombe démographique, c'est que finalement, je dirais, on met la charge de la responsabilité sur l'humanité en général et non pas sur un système, quel est le système capitaliste ou le système productiviste. Et puis j'aurais même tendance à dire, même si on croit que le problème, c'est le problème démographique, je dirais, de par l'inertie du phénomène démographique, si réellement il faut, je dirais, trouver une solution avant 30 ans, c'est pas par la démographie qu'on va le faire, c'est par un changement de mode de vie, par un changement de style de vie.
Marianne Durano, ce que l'on voit, c'est que justement, alors on l'a déjà dit, c'est pas forcément vrai, ce sont pas nécessairement les consommateurs qui sont responsables, mais plutôt un mode de production plus global. Alors est-ce que justement c'est une réflexion plus large qui doit être menée sur les modes de production, les modes d'agriculture notamment ?
Oui, parce que depuis le début, on parle de la rareté des ressources, mais il faut justement distinguer entre des ressources qui sont renouvelables, donc par définition inépuisables, le soleil, les plantes, l'eau. Enfin, l'eau comme force motrice, et les ressources qui sont limitées, en l'occurrence les ressources fossiles. Donc il faut bien distinguer les deux, et tout le problème actuellement, c'est que l'agriculture intensive utilise les ressources fossiles pour ensuite produire des ressources qui devraient normalement être renouvelables. Et vice-versa, le fait d'utiliser du maïs comme carburant, ça, c'est une inversion et une confusion des types de ressources. Donc oui, évidemment, investir dans le renouvelable et non pas dans les énergies fossiles. Il faut savoir qu'on estime, par exemple, que donc le plus gros pollueur au monde, c'est l'armée américaine. Donc c'est l'armée américaine, et on estime que l'argent dépensé par l'armée américaine pendant la guerre en Irak suffirait, par exemple, aux besoins d'investissement en énergie renouvelable d'ici 2030. Enfin, on estime que l'argent nécessaire pour développer les énergies renouvelables dans le monde jusqu'en 2030 correspond à la somme investie par le gouvernement américain dans la guerre en Irak.
Mais est-ce que ce ne sont pas des questions très différentes ?
Mais justement, alors ensuite, aller dire aux femmes irakiennes que c'est parce qu'elles ont trop d'enfants qu'on pollue, je trouve que c'est vraiment une injustice et une inversion des problèmes. Même si toutes les femmes irakiennes cessaient de procréer, l'armée américaine n'en cesserait pas moins son entreprise de destruction, de pollution et de gaspillage. Et oui, bien sûr, c'est le système entier de production et de consommation qu'il faut revoir. Et plutôt que d'investir des politiques de régulation et démographique, je pense qu'il faudrait investir des politiques de régulation du marché, de régulation de la production, sachant que la plupart des entreprises qui... Alors en France, c'est un peu plus restrictif quand même. Dans le monde, par exemple, déversent des tonnes de produits toxiques dans les rivières, le font sans enfreindre explicitement aucune loi. C'est-à-dire qu'elles arrivent à, en effet, trouver des niches, des contournements, et c'est là qu'il faudrait des lois, de régulation.
C'est la question de la question politique qui pose deux problèmes. Alors à la fois l'asymétrie entre les pays du Nord et les pays du Sud, à savoir les exigences des pays développés de réguler notamment la démographie dans les pays en développement, sans savoir quel peut être l'impact sur la croissance de ces pays-là, puisqu'on a vu qu'il y avait des liens, pas toujours de cause à effet, mais pouvait y avoir des liens en tout cas en matière d'emploi, etc. Et de l'autre, la question aussi finalement, la manière dont on formule politiquement la coordination entre ces politiques-là, puisque pour que ça fonctionne, il faudrait que les politiques soient coordonnées, Enzo Le Sourd.
C'est tout la redéfinition qui est en cours du politique et qui peine à voir le jour, même si on voit que la société civile a un temps d'avance par rapport à l'ONU et le débat public sur ces questions-là. C'est de voir recréer un clivage politique et de recréer donc un débat démocratique entre sur le degré de complexité acceptable. Et l'histoire de la mondialisation, on pourrait aussi la réécrire, l'histoire de la colonisation, on pourrait aussi la réécrire d'un point de vue de la complexité. Ou c'est les sociétés complexes qui vont chercher des gisements d'énergie pour faire perdurer un modèle complexe et pour exporter du coup de complexité. Ça rejoint ce que vous disiez aussi sur l'armée américaine qui exporte du coup de la complexité. Et on voit que le débat du coup qui se dessine, c'est soit on prend un axe qui est autoritaire ou pas, soit la course folle sur l'autoritarisme, soit au contraire une troisième voie. Et moi, j'avais lu avec attention un ouvrage que je trouve assez fascinant de Marshall Salins, qui est un anthropologue anarchiste américain des années 70 et qui avait écrit « Âge de pierre, âge d'abondance », et qui travaillait sur la société des premiers hommes des temps primitifs, qui était selon lui la société la plus blindée contre le manque et contre la rareté, parce qu'au contraire, ils avaient des systèmes de solidarité, ils produisaient uniquement ce qu'il fallait, pas trop, et après le reste du temps, ils faisaient autre chose, ils consommaient des richesses, donc ils n'étaient pas dans la surproduction et la surconsommation. Et donc là, il y a une sagesse ancestrale qui a sûrement à réinvestir, à explorer, non pas pour revenir en arrière, mais au moment où nous, on doit produire un nouvel imaginaire créatif, un nouvel imaginaire politique, voir comment on s'inspire de toutes ces sagesses-là qui avaient la réponse aux questions qu'on se pose aujourd'hui.
En tout cas, suite à des échecs successifs de discussions lors justement de la COP19, puis de beaucoup de réunions internationales sur cette question, hein, qui visait essentiellement à essayer de réguler la démographie dans les pays en développement, chose demandée par les pays du Nord, avec peut-être perçue comme une forme d'injustice, il y a eu des changements politiques quand même qui se sont opérés, en tout cas dans le discours politique, jusqu'au pape lui-même.
Est-ce que c'est un...
Oui, bon, jusqu'au pape lui-même qui a pris une position un peu différente sur la question de la démographie.
Quand je regarde ce que dit le pape sur notamment l'écologie, ce concept d'écologie intégrale, il est en effet sur la revalorisation des biens communs de la nature et de la Terre, mais qui radicalise l'écologie à tel point qu'il dit que la nature, c'est pas uniquement la planète Terre, les biens communs, c'est aussi avoir une morale que certains pourraient qualifier de conservateur sur le droit à l'avortement, sur faut pas d'antibiotiques, faut pas de vaccins, parce que c'est... il est pas sur les vaccins, il est sur l'avortement notamment, je crois, mais sur l'écologie intégrale, donc il est sur un discours... altermondialiste de gauche sur les rapports de force économique, et en même temps au nom de la même écologie qui radicalise et qui en fait un discours cohérent. Mais ça, c'est les questions que vous travaillez aussi un peu à limite, si j'ai bien compris. Il est sur une morale qui est très conservatrice.
Juste pour rebondir sur l'écologie intégrale, parce qu'en effet, limite est une revue d'écologie intégrale. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on respecte le vivant et la vie dans tous les domaines. Et voilà. Justement, cette question, pour revenir sur l'action de la coercition dans la régulation des naissances, c'est de se dire qu'on ne peut pas prétendre défendre le vivant, la Terre, tout en ensuite pratiquant des politiques coercitives sur la vie humaine et le corps des femmes en général. Donc se dire, la nature, elle n'est pas seulement à l'extérieur de nous, mais en nous, et la vie, elle est dans nos ventres comme dans nos banquises.
Denis Garnier, justement, sur la question la limitation de la démographie et d'un autre modèle peut-être qui serait possible d'imaginer dans l'utilisation des ressources, de par une limitation de la population. Qu'est-ce que dit démographie responsable sur cette question-là, sur l'invention d'un nouveau modèle ?
Non, mais nous, de toute façon, on estime qu'on est déjà trop nombreux. Hein, et on n'est pas les seuls à le penser, puisque à la COP23, au moment de la COP23, il y a 15 000 scientifiques qui ont sorti donc un appel. Là, c'est sorti sur Le Monde, sur La Croix, etc. Donc, il y avait 13 propositions, donc des propositions même d'écologie intégrale, pourquoi pas. Et il y avait deux propositions sur la démographie. Donc, d'une part, l'extension du planning familial, l'éducation pour tous, et en particulier pour les jeunes filles qui n'y vont pas dans les pays en développement, parce qu'on les garde à la maison. Et puis donc, une chose aussi très intéressante, c'est la notion de population soutenable. Travailler sur combien est-ce qu'on peut être de façon durable, si l'espèce humaine veut survivre sur le long terme, eh bien, quel nombre voilà. Donc ça, c'est un travail, nous, qu'on a commencé à faire à démographie responsable. Et je peux vous dire qu'actuellement, c'est entre 4 et 5 milliards.
Enzo Le Sourd, ça pose la question effectivement d'un modèle à inventer. Pour l'instant, on en est qu'au balbutiement politique de cette question-là.
Bon, au balbutiement, à la fois il y a une prise de conscience dans la société, on voit même que le pape, qui n'est pas censé être une figure de proue de la modernité sociale et des mœurs qui viennent sur ces questions d'écologie, avec, quand vous dites, après moi je tique un peu quand vous dites, bon après c'est un débat interpersonnel, mais sur le vivant il est dans nos ventes comme sur la banquise, là aussi il y a un discours qui peut paraître un tout petit peu pas forcément émancipateur, mais en tout cas avec une morale qui peut paraître un peu figée. Et c'est voir, après le débat, c'est pas si on se situe dans telle ou telle morale, c'est comment on se donne des règles du jeu collectives, pour voir est-ce qu'on est sur un système de surcomplexification pour baisser la surpopulation, ou est-ce qu'au contraire on essaye de s'inspirer de ce qui a été fait avant, du meilleur de chaque société, pour voir comment on trace un imaginaire désirable pour nos pays.
C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour.
Bonjour Mélisse, bonjour à tous.
Vous allez nous parler des limites de notre ressource la plus précieuse, à savoir l'eau.
Effectivement, l'ONU vient de remettre un rapport particulièrement préoccupant, selon lequel plus de 3,5 milliards de personnes vivent aujourd'hui dans des zones où l'eau manque au moins un mois par an. Selon les Nations Unies, ce chiffre pourrait même atteindre 6 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et le mois dernier, ce sont 40 000 personnes qui se sont réunies à Brasilia pour le Forum mondial de l'eau. Parmi ses participants, une quinzaine de chefs d'État, 300 maires et plusieurs dizaines de militants écologistes et de scientifiques réunis pour élaborer des solutions communes pour un usage durable des ressources aquatiques.
D'autant que les premiers signes de cette raréfaction de l'eau se font déjà sentir.
Oui, on a notamment à l'esprit le cas dramatique de l'agglomération du Cap. La deuxième ville d'Afrique du Sud subit en effet l'une des pires sécheresses de son histoire, ce qui a conduit le gouvernement sud-africain à décréter l'état de catastrophe naturelle et à mettre l'armée en charge du rationnement et de la distribution de l'eau. Il faut également rappeler que plus d'un quart des ressources d'eau renouvelable, hors Antarctique, se trouvent en Amérique latine et notamment au Brésil, mais que dans le même temps, deux régions entières comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord courent de sérieux risques de pénurie dans les années à venir. Benedito Braga, président du Conseil mondial de l'eau, rappelle ainsi que la quasi-totalité des ressources disponibles dans le monde se trouve dans les nappes phréatiques transfrontalières, ce qui nécessite d'élaborer des compromis et des ententes au-delà des amitiés ou des tensions diplomatiques traditionnelles.
Que propose l'ONU ?
Eh bien, l'un des enjeux de ces grands messes internationales est de renforcer le dialogue et la coopération pour favoriser un usage et un partage durable des ressources aquifères. Mais l'ONU plaide également en faveur du développement d'infrastructures vertes fondées sur la nature par opposition aux infrastructures grises qui renvoient aux outils construits par l'homme et bien souvent peu respectueux du cycle de l'eau et des spécificités des milieux. Ainsi, l'eau n'est plus envisagée comme un élément isolé mais comme faisant partie intégrante d'un processus naturel et complexe. Poussées par les Nations Unies, ces techniques ancestrales permettent de diminuer la pression sur les terres, de réduire la pollution, de limiter l'érosion et l'artificialisation des sols, tout en développant par exemple des systèmes d'irrigation plus économes et plus efficaces. L'UNESCO prend ainsi l'exemple de Madagascar qui a mis en œuvre un système d'intensification du riz qui privilégie une restauration de la fonction hydraulique et écologique des sols plutôt que l'utilisation de nouvelles semences ou de produits chimiques permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'augmenter la production de riz de 25 à 50%. Toujours selon l'UNESCO, la production agricole mondiale pourrait donc, grâce à ces techniques vertes, augmenter de près de 20% sa production annuelle.
C'est donc très efficace.
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui est mis prioritairement en avant. Comme pour bien d'autres sujets, les militants ont en effet abandonné le terrain du combat éthique pour se concentrer sur des arguments rationnels et politiques. C'est ce qu'explique Ricardo Medeiros, membre du Conseil mondial de l'eau, qui affirme qu'il est à présent nécessaire de dépasser le discours traditionnel évoquant l'eau comme un élément essentiel à la vie pour le reconnaître en tant que moteur de développement, apparemment le seul argument audible pour les homo economicus qui peuplent notre planète.
Et pour ce débat de fin de semaine, Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune, dont nous sommes partenaires, vient nous parler du chiffre du jour. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors le chiffre du jour, c'est 4.
Oui, c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse, les 4 GAFA bien sûr, Google, Apple, Facebook et Amazon, les 4 tech compagnies géantes de la Silicon Valley. Il ne se passe plus un jour sans que l'un d'entre eux ne fasse la une de l'actualité. Et cette semaine, c'était la fête à Facebook avec la convocation de Mark Zuckerberg devant les deux chambres du Congrès américain pour s'expliquer sur l'affaire Cambridge Analytica. Cette société spécialisée dans l'analyse de données a réussi à pirater 87 millions de comptes Facebook et les données personnelles associées, dont 211 000 en France, ce qui a donné lieu à diverses manipulations politiques. Le scandale est immense et cette convocation de Zuckerberg au Congrès est un tournant pour l'image des GAFA, déjà écornés par plein de sujets, leur stratégie d'évitement fiscal systématique, l'affaire des fake news également. C'est un coup dur pour le jeune milliardaire de 33 ans qui se voyait déjà candidat à la Maison Blanche.
Oui, et l'affaire Cambridge Analytica, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ça, on peut le dire. Cela a eu un impact d'ailleurs sur leur cours de bourse. Ils ont perdu plus de 300 milliards de dollars de capitalisation à E4 depuis le début de l'affaire, dont 80 milliards pour le seul Facebook. Il faut dire qu'ils partent de très haut puisque leur valeur dépassait 4 000 milliards de dollars à 4, deux tiers du PIB d'un pays comme la France. Pendant longtemps, le public a eu les yeux de chimène pour ces 4 jeunes entrepreneurs qui ont développé des nouveaux services depuis leur garage ou leur université. On a valorisé l'innovation, l'utilité du service apporté, une bibliothèque numérique pour Google, un réseau social permettant de rester en permanence en contact avec ses amis pour Facebook. Mais avec Cambridge Analytica, la colère monte et les appels à la régulation se multiplient pour mieux protéger nos données. On est en train de s'apercevoir que la contrepartie de la gratuité a un coût, la mise à nu d'informations précieuses sur notre vie numérique et notre vie tout court. D'ailleurs, vous pouvez faire le test Mylis pour vous-même en demandant communication à chacun des GAFA des données qu'ils détiennent sur vous. Le résultat, comme l'ont montré plusieurs médias, est assez vertigineux.
Oui, mais comment réguler les GAFA ?
Alors c'est toute la question qu'a d'ailleurs posée, sans se démonter, Mark Zuckerberg cette semaine. Les États-Unis ont longtemps rechigné à réguler la Silicon Valley, elle l'a laissé s'auto-réguler. Mais aujourd'hui, d'économique, le sujet est en train de devenir politique. L'Europe montre la voie et Mark Zuckerberg, qui s'est contenté pour l'instant de s'excuser la belle affaire, a reconnu que s'il n'était pas en mesure de réparer Facebook rapidement, une législation du type de celle qui va s'appliquer en Europe à partir du 25 mai est une bonne piste à suivre. Cette régulation, on en a déjà parlé ici, c'est le fameux RGPD, ou Règlement Général pour la Protection des Données, qui va permettre aux internautes d'exiger leur consentement explicite pour l'utilisation de leurs données. En fait, ce qu'il faudrait peut-être parvenir à faire, c'est une sorte de coffre-fort numérique pour nos datas. La difficulté, c'est d'y parvenir sans que cela remette en cause la gratuité des services qu'ils offrent.
J'en profite pour vous demander quelle est la une de la Tribune.
Eh bien, c'est justement le même sujet, Data Wars. C'est à la façon de Star Wars, une enquête sur comment l'Europe est en train d'essayer de contre-attaquer face à la domination des géants américains sur le plan fiscal, sur le plan de la concurrence et sur le plan de la protection de la vie privée.
Un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, le fils du soleil et du vent. Un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel. Un ange gardien du néant. Un grain de poussière, infiniment petit ou grand.
Jacques Higelin, je ne suis qu'un grain de poussière. Merci Marianne Durano, Denis Garnier et Enzo Le Sourd d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Marianne Durano, je rappelle le nom de la revue Limites à laquelle vous participez et dont le dernier numéro est intitulé « À quoi nous tenons ?» Denis Garnier, nos auditeurs peuvent vous lire sur le blog Démographie Responsable. Quant à vous, Enzo Le Sourd, je rappelle le nom de votre livre « Survivre à l'Anthropocène » et c'est publié aux Presses Universitaires de France. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux et sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain, à la même heure, ce sera Métronomique, présenté par Amaury Chardot. Le Portugal et l'Afrique, l'Empire contre-attaque. On se retrouve lundi pour une semaine intitulée « Il était une fois l'Angleterre industrielle » et on commencera avec Dickens et la naissance du capitalisme.